Je dois dire que j'ai commencé à venir au comité au nom de mon pays, la Tunisie, en 1978. Depuis jusqu'à aujourd'hui, puisque j'ai quitté le comité en tant que membre du comité, puisque mon dernier poste était rapporteur à Phuket en 93, puisque on m'a demandé de rester rapporteur alors que j'étais président en 91-92. Mais après, comme je suis entré à l'UNESCO comme collègue de Mechtild, c'est-à-dire donc au secrétariat, et je m'occupais, j'étais directeur des projets spéciaux du patrimoine, Bosnie-Herzégovine, Palestine et Cambodge. C'est comme ça que j'ai commencé avec le Cambodge. Et à ce moment-là, jusqu'à aujourd'hui, je viens au comité d'abord comme membre du secrétariat, et après j'ai pris ma retraite, et je viens, j'ose le dire, pour le plaisir d'apprendre, pour le plaisir de voir comment cette idée du patrimoine mondial se développe. Et beaucoup de gens se disent, mais est-ce que ce n'est pas en train de vieillir tout ça? Je peux vous dire dès maintenant, je n'attends même pas la question, je vais vous dire, ça ne vieillit pas. Au contraire, ça se renouvelle. Moi, j'ai eu la chance, compte tenu de mon âge, de connaître des jeunes, des moins jeunes, des gens âgés. Et chacun apprend à l'autre quelque chose. Moi, je crois que c'est irremplaçable, c'est ce que je garde, moi, cette idée que le patrimoine est une transmission. C'est un passage de relais entre les gens expérimentés et des gens plus âgés. Ça n'existe dans aucun système au monde. Parce que si on quitte, on quitte pour toujours. On ne revient pas. Tandis que nous, on revient. Et, au fait, on ne quitte pas. Les gens qui aiment le patrimoine ne quittent pas.
Dans vos mots à vous, comment est-ce que vous allez vous décrivez les objectifs clés de la Convention? C'est quoi le but de la Convention, selon vous?
Oui. Beaucoup de gens, au départ, je me souviens, on avait discuté en particulier dans la réunion de Washington, que les gens croyaient que l'objectif de la Convention, c'est inscrire. Et c'est un contresens. On ne vient pas pour inscrire. Inscrire est l'une des missions du comité, mais on inscrire pourquoi? Ce que je retiens du patrimoine mondial, ce n'est pas l'inscription. C'est le but, l'objectif de l'inscription. Et je vais droit à une chose qui me tient à cœur. Je prends la liste et je vois l'Espagne. Qu'est-ce qu'il y a dans l'Espagne? Il y a des monuments de toutes les parties de l'Espagne. Mais il y a la plus grande mosquée du monde. La mosquée de Cordoue. C'est la plus grande. Ce n'est pas un pays musulman qui a proposé Cordoue. Ce n'est pas l'Égypte ou l'Arabie Saoudite ou les musulmans. C'est l'Espagne. Royaume chrétien, s'il y en a. Et ça, je crois qu'il faut le retenir. C'est que le pays qui a proposé ça a intégré ce monument dans son histoire, dans son imaginaire et dans son patrimoine. Et toujours dans cette même idée. Il faut dire, moi je n'ai aucune gêne pour dire, tout le monde dit, oh là là, la Libye, c'est le pays de l'arabisme, du nationalisme arabe, etc. Oui. Mais la Libye est représentée sur la liste par quoi? Représentée par une des plus belles villes grecques de la Méditerranée, Cyrène. Représentée par quoi? Par la plus belle ville romaine en dehors de Rome. Car une fois qu'on sort de Rome, la plus belle, c'est Leptismania, parce que c'était la ville de l'empereur Septime Sévère. Eh bien, ça donne à réfléchir. Ça veut dire qu'ils ont intégré ce qui pouvait apparaître au départ comme des éléments étrangers, c'est devenu leur patrimoine. Et ils l'ont intégré et ils les représentent sur la liste. Et il faut chercher un peu partout dans le monde les cas où vous avez comme ça présence de deux périodes, de deux civilisations. Et comme vous savez, moi je travaille depuis longtemps parce que directeur général de l'UNESCO, avant même que je ne devienne fonctionnaire, quand j'ai été président en 92, il m'a demandé de voir comment on peut inscrire encore sur la liste du patrimoine mondial. Donc je suis allé là-bas et nous avons inscrit avec beaucoup de difficultés, on peut parler de ça. Et il m'a nommé représentant spécial au moment de l'inscription pour continuer à intervenir pour sauver encore, et nous l'avons fait. Et depuis je suis là, j'y vais tous les ans. Mais il y a une chose encore qu'on ne dit pas. On arrive devant des monuments grandioses, extraordinaires. Mais ces monuments sont de deux religions antagonistes qui se sont bagarrées. Et il y a même certains monuments où on est allé effacer les souvenirs de telles religions entre l'hindouisme et le bouddhisme. Mais après, ils se sont assagis et on trouve jusqu'à la fin d'encore, 16e siècle, on trouve les deux à la fois. On trouve des monuments où vous avez une part hindouiste qui n'a pas été détruite et une part bouddhiste ensemble. Et ça, c'est aussi, moi, personnellement, ce qui me frappe le plus, c'est que les monuments du patrimoine mondial sont un témoignage de choses qui sont peu connues, mais qui sont la preuve que l'humanité ne doit pas s'attacher seulement aux images de violence, de guerre, de mal, mais aussi à ces images d'harmonie. Cette présence concomitante dans un monument du patrimoine mondial, de deux cultures, de deux religions, de deux civilisations, moi je crois que c'est ça qui est peut-être l'aspect le plus touchant, le plus intéressant du patrimoine mondial. Comment le patrimoine mondial arrive à harmoniser des choses qui, dans l'histoire, ont été antagonistes.
Alors, au début, je ne sais pas comment les gens, au début, ont conçu cette liste-là. Est-ce qu'ils auront pu imaginer que la liste approcherait 1000 sites ou 2000 sites éventuellement? Est-ce que c'est quoi votre jugement là-dessus dans le passé? Comment c'était vu? Et est-ce qu'on a trop de sites? Est-ce qu'on a pas assez de sites? C'est quoi dans ce débat de la longueur de la liste?
Oui, vous avez raison de poser cette question parce qu'elle est reliée à ce qu'on appelle l'universalité d'un côté, une liste équilibrée de l'autre et la représentativité. Bon, ces notions. En vérité, moi je dois le dire, je parle devant des spécialistes, je n'ai jamais compris pourquoi on devait avoir un nombre limité. Parce que nombre limité veut dire qu'un beau jour, on dit, allez, stop, ceux qui ont eu 20, 30, ça va, les autres, ils ne doivent plus avoir. Ce n'est ni logique, ni surtout équitable. Je trouve que quand même, on a bien fait, par exemple, de dire qu'il ne faut pas présenter plus d'un ou de deux par an, il ne faut pas non plus encombrer la liste, il faut pas. Ça, c'est ce qu'on appelle la pratique et les conditions de procédure pour éviter que le secrétariat ait trop de travail et que l'on puisse pas gérer comme il faut. Ça, c'est vrai. Mais l'idée de limiter le nombre n'est pas équitable. Moi, je pense comme ça, parce que c'est pas possible.
Est-ce que cette question-là a été discutée au début de la convention?
Absolument. Au moment où des gens, une réunion à Paris où j'étais rapporteur, donc je me souviens très bien, 80, la première fois où j'étais rapporteur, on a posé à la réunion de Paris le problème. Savez-vous au départ, ça, quand on regarde l'histoire du patrimoine mondial, on faisait tout pour dire vite, vite, la liste est trop petite. Il faut. Alors on faisait de ce qu'on appelait la promotion, mais c'est Raymond Lemaire que j'ai cité tout à l'heure, le malheureux Raymond Lemaire m'a dit, oh là là, tu sais Azine, ce qui va arriver un jour? Je lui ai dit quoi? Il m'a dit, ce qui va arriver un jour, c'est que, et il avait raison, il a eu raison. Il m'a dit, c'est que maintenant, c'est normal, on veut constituer une liste. On veut constituer les premiers. Et on ne peut pas promouvoir une convention avec seulement 20 ou 30 biens. Il faut arriver à 100, etc. Donc on a été généreux. On a inscrit au départ 100 management plans. On a inscrit quand les gens... avait présenté des dossiers où il manquait des éléments importants. Bon, parce qu'il fallait créer la liste. Et puis un beau jour, on a dit, non, maintenant, ça y est. Il y en a trop, ça c'est... Et donc, il y a eu un moment très difficile où les gens, d'ailleurs ça continue un peu comme ça, mais c'est moi, comme j'ai été depuis presque le départ, j'entends les gens dire, et pourquoi ils n'ont pas demandé à tel pays, à ce moment-là, etc. Aujourd'hui, ils nous font ça. Ça paraissait comme une sorte de ségrégation entre les anciens et les nouveaux. Et on allait leur expliquer, mais non, c'est que maintenant, il y a des règles à suivre, il faut les avoir, ça n'a rien à voir, qu'on soit un petit ou un grand pays, qu'on soit... Et je crois que ça a été l'intelligence du Centre du patrimoine, et de l'UNESCO en général, et du comité, de faire en sorte que ça s'applique à tout le monde. Que bien sûr, qu'au départ, c'est les pays émergents, etc., mais qu'après, on a rappelé, vous, la Grèce, je me souviens, la Grèce à propos du mont Athos. Il y a eu un rapport. Alors les gens disent, même la Grèce, Grèce ou France ou Canada, on importe, tout le monde est la même chose. Et je crois que c'est ça aussi le sens de la Convention, c'est qu'il n'y a pas pauvres et riches, sauf ceux qui demandent au fond du patrimoine, ce qui est normal. Mais du point de vue de la Convention, les pays pauvres, les pays riches, les pays qui ont 20 biens et les pays qui ont 2, sont tous sur la même longueur d'onde et tous placés au même... Et donc, il y a eu cette idée, par la Convention, d'une égalité et d'une équité entre les pays, avec beaucoup de difficultés, bien sûr, mais on est arrivé. Donc... maintenant, on est revenu à une... Et ce n'est pas parce qu'il y a 2000 biens ou 1000 biens. Non, c'est parce que de plus en plus... Alors, j'ouvre une parenthèse. Les pays disent, c'est devenu beaucoup plus dur qu'avant d'inscrire un bien. Je dis, non, ce n'est pas que plus dur qu'avant. C'est que maintenant, les gens ont une compréhension du patrimoine mondial plus importante qu'avant et plus sérieuse. Plus sérieuse. Je discutais l'année dernière à Séville avec un Algérien. Il m'a entendu. Je lui ai dit, vous savez, aujourd'hui, si je devais présenter le site de Carthage, qui peut penser que le Carthage ne soit pas sur la liste? Je lui ai dit, malheureusement, quand j'ai fait moi le dossier, c'était un peu hâtif. Et quand je le regarde maintenant, je suis un peu honteux. Je me dis, ah bon ? Je lui dis, je le dis parce que je le pense. Parce qu'en 78, les exigences n'étaient pas comme maintenant. Et l'ICOMOS qui était venu n'était pas comme maintenant. Donc, je lui dis, non. Maintenant, on est plus sérieux, on approfondit plus, on tient compte de tous les aspects, on prépare mieux les dossiers, et parce que le comité est plus exigeant. Eh bien, tant mieux, parce qu'à ce moment-là, la notion de patrimoine mondial n'est pas simplement « Ah, Carthage !» Et alors, Carthage, il faut qu'il y ait une bonne gestion, un bon plan, une loi de protection, etc., etc. Donc, j'ai pris ça parce que vraiment, je le crois. En 78, il n'y a pas les mêmes exigences qu'aujourd'hui. Et il faut être honnête intellectuellement et ne pas dire « Oh, aujourd'hui, on nous demande plus ». Mais non, c'est normal. Entre 78 et 2010, heureusement que l'humanité change, que les exigences changent, etc.
Alors, venant à la grande question de finir l'entrevue, et c'est la question de juger, vous avez... vu la question venir, c'est est-ce que, dans votre jugement, c'est quoi les grandes réussites et les grandes faiblesses de la Convention, oui, vu large?
Je commence par les succès et j'en prends un. Le rapport, ça m'a fait grand plaisir, le rapport qui vient d'être fait sur encore le patrimoine mondial au Cambodge, vraiment, je suis heureux et ravi parce que j'ai vu comment un site qui a été inscrit et je le dis parce qu'en 92, il était président, Santa Fe, nous l'avons inscrit alors qu'il sortait de la guerre, il était miné, 40 000 hectares sans aucune administration pour les gérer, sans argent. C'était un défi. C'était un véritable défi. Et il y a eu une grande, grande controverse que je résume en deux mots. Est-ce qu'on inscrit pour sauvegarder ou on sauvegarde pour inscrire? Pourquoi encore il faut le mettre sur la liste? Parce que c'est comme ça on assure sa sauvegarde. Ce défi a été gagné, je dois le dire. Moi, je suis très content. Pourquoi ce défi a été gagné? Parce que le comité, on a inscrit et puis on a mis liste des patrimoines en péril. Et puis on a mis les cinq grandes conditions pour qu'un jour ils sortent du péril. Un, il faut avoir un organisme, une administration, un office, quelque chose, pour la gestion nationale. Et on l'a eu. C'était 92, 94, création. Plusieurs sont là dans la réunion, de ce qu'on appelle APSARA, l'autorité nationale pour la sauvegarde d'Angkor et de la région d'Angkor. Et c'est un organisme extraordinaire où il y a des architectes, des archéologues, des ingénieurs, des hydrauliciens, des forestiers. Ils ont pris méthode, exemple sur Park Service, où ils ont des sortes de rangers et bien équipés qui font le tour, parce que la moitié du site, c'est une forêt. Et une partie de la forêt est une forêt tropicale, pour éviter qu'on coupe les arbres, mais aussi parce qu'elle fait partie du paysage. Et c'est l'un des premiers sites où on a appliqué la notion de paysage culturel. Alors, tout ça a donné cet organe APSARA, au bout d'une quinzaine d'années, c'est vraiment un modèle, il fonctionne très bien. La quatrième, je reviens aux conditions qui ont été remplies, créer un système international de coopération. Et vous avez fait un rapport, vous connaissez bien les choses, etc. Parce qu'elle a fait un rapport sur Angkor, comme vous savez, et qui a beaucoup aidé, dans ce sens que maintenant, il y a 23 pays qui participent à cet effort international, et ces équipes sont chacun un drapeau, bien sûr, mais ils coopèrent, ils travaillent ensemble, ils forment les gens, et c'est le dernier point, la formation sur place, pas seulement la formation universitaire. Cette inscription qui s'est faite sur un site miné, on a passé 9 ans à déminer et à former des gens de déminage. Et on a restauré plus de 40 monuments. On a fait des fouilles pour mettre en valeur, etc. Et maintenant, du point de vue du tourisme, on est passé de, il y a 10 ans, ils étaient 350 000, maintenant ils sont 2 millions. Et ce site est immense, il peut recevoir plus. Mais pour dire, avec tous les moyens, petit à petit, c'est aussi la réussite, c'est que ça ne s'est pas fait d'un coup. Ça s'est fait peu à peu. Et donc les gens ont appris leur travail sur le terrain et ensemble. L'hydraulicien avec l'archéologue, l'archéologue avec le sociologue, etc. Ça, c'est un exemple que je trouve de grande réussite. Le revers de la médaille, c'est la rançon, ce que j'appelle la rançon du succès. Dans les pays en développement, comme le patrimoine mondial est prestigieux, tous les moyens qui ne sont pas énormes sont mis pour le patrimoine mondial. Et donc, nous avons un patrimoine à deux vitesses. Nous avons, et je citerai ça pour certains pays arabes, certains pays africains, certains pays d'Amérique latine, où les moyens financiers et les ressources humaines sont concentrées dans le patrimoine mondial, parce qu'il est prestigieux et parce qu'il est la vitrine. Et du coup, vous avez une perte de patrimoine, alors que la Convention dit « ce n'est pas parce qu'un bien, vous connaissez tous, c'est pas parce qu'un bien n'est pas sur la liste du patrimoine mondial qu'il peut être considéré comme n'ayant pas de valeur extraordinaire, universelle ». Ben non, pour eux, où il est patrimoine mondial. Et on a cette grande difficulté. Et la seconde chose, c'est que malheureusement, le patrimoine est devenu, à cause du succès, lié au prestige national et à l'identité. Donc, il y a risque pour le patrimoine mondial, et c'est pour ça que peut-être il y a une action que doit mener le comité, que doit mener le centre, et même l'UNESCO en général, dans sa conférence générale, etc., de faire appel au respect, non pas seulement de la diversité culturelle, au respect du patrimoine mondial, où qu'il soit, et quelle que soit la référence culturelle. Ce n'est pas que moi, parce que moi je suis musulman, que je dois détruire une synagogue. Ce n'est pas parce que je suis juif que je vais détruire une mosquée. Et il faut que ça soit dit et répété, parce que sinon, chacun va se recroqueviller sur son patrimoine et dire « ouais, magnifique mon patrimoine », et du coup, cette idée qu'on développe chez nous tous de dire « c'est d'égale valeur, Notre-Dame de Paris et la cathédrale de Prague et la mosquée du Caire, etc. » sont sur un ensemble que nous appelons le patrimoine mondial. Et donc, on les respecte et on les rapproche. Si on ne fait pas un effort pédagogique, et finalement, cet effort pédagogique est essentiel, nous risquons que le succès du patrimoine nous amène à l'orgueil national et à l'identité. Et donc, outre le danger du patrimoine à double vitesse que nous avons dans les pays, surtout les pays pauvres, de l'autre côté, le patrimoine identitaire, avec l'exclusion. Je garde ça et je garde ça. Et je ne sais pas si vous pouvez l'écrire, mais moi je vous le dis pour finir. Le patrimoine qui est justificatif. Comment on a pu détruire une partie de Lhasa? C'est au nom du patrimoine mondial. L'argumentaire de la Chine, c'est de dire... Moi, je vais mettre en valeur le patrimoine mondial. Donc, ils ont mis en valeur le patrimoine. Mais tout autour, ça a été démoli. Et on a gardé, au nom du patrimoine mondial, on a démoli plus de la moitié de la ville pour mettre autre chose. Et donc, maintenant, quand vous arrivez à Lhasa, vous avez... C'est vrai, il y a de belles réalisations, mais on a débarrassé de tout ce qui... Ça, c'est aussi l'un des aspects de déviation de la patrimoine mondial. Mais enfin, là, nous entrons dans ce que j'appelle la grande politique et les problèmes. Et comme l'UNESCO est une organisation d'État, et comme organisation d'État, il est bien évident que, quelquefois, c'est limite. Le comité ne peut pas. S'il s'adresse à l'UNESCO, qui est la gardienne par son directeur général de la Convention, que vous voyez l'UNESCO faire des remarques politiques à des États, c'est impossible. Ils peuvent regretter, mais ils peuvent pas. Alors là, je ne sais pas quelle est la solution, mais j'attire l'attention sur cette grande difficulté et qu'il faut que dans les années à venir, on commence par la base, par le comité. On donne les moyens au centre pour qu'il développe toute cette action pédagogique et que peut-être par les livres, par l'école, par les nouveaux moyens de communication, on fasse comprendre aux gens que le patrimoine mondial est une notion pas seulement généreuse, identitaire, culturelle, c'est aussi ce que la Convention nous dit. Ce réseau de solidarité universelle où tout le monde sent que son patrimoine est l'égal de l'autre, quelle que soit son importance.